Chloé, tu es arrivée donc dans la paroisse, enfin tu es revenue dans la paroisse il y a un peu plus d'un an maintenant, et tu as été poussée à revenir par les questions que tu te posais sur la foi. J'aime bien penser que Dieu se cache déjà dans nos questions, même si on ne le sait pas. Alors je t'ai accompagnée pendant toute cette année et tu as voulu signifier ton engagement en demandant la confirmation de ton baptême. Dans notre préparation, nous avons lu beaucoup de textes bibliques et avec l'histoire de Joseph, tu as été frappée de son parcours difficile. Objet de jalousie de ses frères, il a travaillé pour un homme de confiance, il a été accusé faussement, il s'est retrouvé en prison. Et il avait une capacité donnée par Dieu, c'est celle de décrypter les rêves qui étaient envoyés par Dieu. Et donc, le pharaon avait des rêves que personne ne savait décrypter, et donc, il y en a un qui l'avait oublié. Et, parce que Joseph avait déjà décrypté les rêves de cet homme qui avait été aussi jeté en prison. Enfin bref, je vous invite vraiment à relire toute l'histoire, elle est passionnante. Il faudrait vraiment en faire un film. Et du coup, comme il réussit à décrypter les rêves du pharaon, eh bien, il va permettre au pays des. Vous savez, il y a une expression en français qui dit on a une période de vache maigre. Eh bien, c'était ça. Il y avait 7 années de vache maigre et 7 années de vache grasse dans le rêve du pharaon, c'est-à-dire 7 années où il y avait des récoltes en abondance et 7 années où il n'y avait que de la. Voilà. Que de la sécheresse et où il n'y avait pas de récolte du tout. Et donc, grâce à lui, eh bien, son pays, le pays d'Égypte, va pouvoir être nourri. Joseph s'est fait exclure très jeune. Mais cela ne l'a pas empêché de rester dans ses valeurs de vie, c'est-à-dire fidèle au Dieu unique qui est un Dieu bon. Il a cheminé au travers des jalousies, des pièges, des médisances, des oublis, des calomnies, des accusations fausses. Et malgré cela, il est resté bon. Il a gardé sa ligne, son horizon de confiance. Il n'a pas cherché à se venger, ni de la femme qu'il a accusée, ni de celui qu'il a oublié dans sa prison, ni de ses frères à qui il va finalement pardonner. Il sait que sa vie n'est pas dépendante des humains. Peut-être que se venger, quelque part, c'est encore donner prise aux humains. Lui a gardé les yeux vers Dieu. Il sait que sa vie a du prix pour Dieu, a de la valeur pour Dieu. Toutes choses sont dans ses mains. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu, dit le pharaon. L'auteur de ce texte montre même que le pharaon connaît le Dieu unique du peuple hébreu. Dieu agit par son esprit pour être en lien avec les humains, et ce Dieu se distingue de ceux adorés par les Égyptiens parce que c'est un Dieu de vie, toujours présent et toujours surprenant. Toujours surprenant. Joseph va dire à ses frères à la fin de l'histoire : Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire un bien. Quand nous nous trouvons dans des situations inconfortables et difficiles à supporter, notre patience a des limites, nous sommes tentés de montrer notre capacité aussi à faire du mal, il ne faut quand même pas se laisser faire. Oui, c'est naturel de réagir comme ça, mais par ces textes, nous comprenons que ce n'est pas un chemin de vie. C'est au bout de l'histoire que nous voyons à quel point l'attitude de Joseph a porté du fruit. Pour lui-même, pour son pays et pour sa famille. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire un bien. Cette phrase peut s'appliquer à Jésus. Le Dieu de vie de Joseph est celui que Jésus vient révéler. Dieu l'a envoyé sur terre pour vivre pleinement cet amour qui dépasse le mal et la mort. Jésus est mort par amour pour nous. Mais Dieu l'a ressuscité, lui a donné la vie éternelle pour nous affirmer à nous que la mort n'est pas la fin de tout. La présence par l'Esprit Saint est donnée à tous, aujourd'hui et maintenant. Mais pour découvrir comment Dieu agit, il faut du temps. Et le temps est bien manifesté dans l'image de la plante qui pousse. Avec toi, Chloé, nous avons parlé de ce temps, de la prière qui apaise, de Jésus qui nous montre un chemin vivant, de la foi qui doit être entretenue. Nous avons parlé de Jésus qui nous rend plus humains, qui nous aide à résister à la loi du plus fort. Et ça, c'est pas facile, parce que la loi du plus fort dans nos sociétés, elle est pas mal mise en avant en ce moment. Mais la compétition se joue dès le plus jeune âge. Cette compétition fragilise et provoque des burn-out professionnels qu'on appelle la maladie du siècle. Et pour nous, eh bien, c'est une grâce de penser que Dieu nous sommes comme nous aime, que Dieu nous aime comme nous sommes. Et du coup, Dieu nous apprend à accepter la limite de notre vie. Il ne nous demande pas d'être des super-héros, il ne nous demande pas d'être des dieux sans limite, non. Nous avons à faire de notre mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes sans aller au-delà. Dieu a un amour débordant pour les humains. Je dirais même un amour fou. Nous pouvons le voir dans cette parabole. En effet, il est question d'un semeur. Le semeur sème la parole du royaume. Le royaume, en fait, c'est ce temps et ce lieu où Dieu est présent, où Jésus est présent, où nous sentons que nous ne sommes pas seuls. C'est ça, le royaume. Déjà ici, aujourd'hui, et puis dans l'au-delà. Ça, c'est le royaume, cette parole d'espérance. Mais ce semeur n'agit pas du tout de façon raisonnable. Je ne sais pas si vous avez déjà semé des graines dans la terre. Bon, on est en ville ici, c'est pas toujours évident, mais même dans votre appartement, vous pouvez avoir un pot avec une petite plante dedans et vous pouvez vous amuser à planter une graine. Puis vous attendez, quand vous avez planté la graine, vous attendez de voir ce que ça va donner. Et quand on sème une graine dans un pot, on prépare la terre. On en fait une belle terre pour qu'elle ait une bonne chance de pousser. Le semeur, pas du tout. Il sème partout, au bord du chemin où la terre est dure, il sème dans les endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre, il sème dans les épines qui ne font pas de place à ses graines, et en dernier, dans la bonne terre. C'est un peu fou quand même, c'est dur à comprendre. L'explication qu'on a entendue, la deuxième partie de la lecture de la parabole, montre que la terre est comparée à la vie humaine. La parole du royaume est semée largement dans toutes les terres, sans exception. On peut dire que tous les humains, nous tous et toutes, nous entendons ou nous avons entendu à un moment donné de notre vie cette parole d'espérance, cette parole du Dieu Père toujours présent, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette parole, eh bien, d'où est-ce qu'elle vient ? De partout. Elle peut intervenir par quelqu'un d'autre, elle peut venir par quelqu'un d'autre, elle peut venir par une lecture, par une œuvre d'art, par de la musique. Que sais-je encore ? Dieu a beaucoup d'imagination pour venir jusqu'à nous. Et il a besoin de chacun et de chacune, parce que ce semeur, c'est nous aussi. On en avait parlé aussi quand tu avais fait ton voyage. On peut aussi dire notre espérance. Pourquoi est-ce que je suis heureuse de croire comme ça ? Quelqu'un va me poser la question. Et puis, la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est quelle terre suis-je ? Vous remarquerez que dans ce récit, il n'y a aucun jugement. Jésus ne juge pas. Il propose une petite histoire et évidemment, dans cette histoire, il suscite notre désir. On a envie d'être dans la bonne terre, évidemment. Et si la bonne terre est notre horizon, eh bien on peut tout faire pour être dans cette bonne terre. On peut exercer nos oreilles à cette parole, au signe que Dieu nous envoie. Nous pouvons toujours apprendre toute notre vie. Mais en y regardant avec attention, il faut quand même avouer que nous sommes aussi les autres terres. Notre confiance en Dieu n'a-t-elle jamais été ébranlée par les souffrances dont nous sommes témoins, que nous entendons, ou peut-être dont nous sommes victimes. On a souvent entendu des commentaires qui disent « Si Dieu est bon, pourquoi il permet-il malheur ?» Oui, c'est un commentaire qu'on entend souvent, et on aurait peut-être envie de le suivre, ce commentaire qui nous permet d'être dans une sécurité peut-être plus cartésienne. C'est peut-être plus sécurisant, mais là je m'éloigne de Dieu. Les pierres du monde empêchent ma foi de s'enraciner plus profondément. Dieu n'empêche pas le mal et la souffrance, mais il est présent avec nous pour les traverser. Ensuite, une autre terre, notre confiance en Dieu n'a-t-elle jamais été détournée par nos soucis ? Nous oublions tellement de fois que Dieu est là pour nous aider à les porter. Le souci de nos richesses ou de nos préoccupations, quelles qu'elles soient dans le travail, etc., nous fait oublier l'importance de l'autre. Parce que Jésus est venu mettre de l'autre dans notre vie, la relation à l'autre, prendre du temps pour l'autre. Et Jésus vient changer notre regard sur nous-mêmes et sur l'autre. Quand on parle du fruit, à la fin de l'histoire, il y a du fruit. Quand on parle du fruit, un fruit, c'est fait pour être pris, c'est fait pour être partagé. Si on pense aux graines, on peut imaginer que ce sont des graines de blé. Les graines de blé, ça sert à quoi ? Ça sert à faire de la farine, et ensuite on fait du pain avec. Et le pain, eh bien, on le partage. Donner de soi aux autres procure de la joie. Et puis, cette parabole peut aussi nous faire réfléchir sur la façon dont la foi nous arrive dessus. Sans forcément l'avoir prévue, sans forcément en mesurer les conséquences. Elle est parfois le résultat d'un long mûrissement, comme la graine qui va rester dans la terre très très longtemps, puis un jour elle va sortir, et parfois elle arrive d'un coup. La foi est toujours donnée. Et pourtant, cette foi, cette confiance en Dieu, doit être entretenue. En effet, si nous sommes un peu toutes les terres à la fois, c'est important d'avoir conscience que rien n'est acquis. Nous avons nos limites, nous dépendons de Dieu, nous pouvons revenir vers Dieu qui nous pardonne en Jésus-Christ. Et nous pouvons goûter cette joie et nous n'avons plus envie de revenir en arrière après, d'être en Dieu et de pouvoir toujours se tourner vers Dieu. Les événements de la vie peuvent nous en éloigner. Venir au culte n'est pas toujours possible là où on habite. Et on peut perdre la force donnée par la communauté. Mais Chloé, tu as déjà compris que vivre avec Dieu est une aventure qui t'aide à accueillir les obstacles et à les surmonter, à vivre de façon plus apaisée. Souviens-toi que la foi continue à mûrir toute la vie et qu'elle demande du temps. Ce que notre société n'accepte pas vraiment, du temps sans rien, du temps sans regarder nos portables, sans avoir un casque sur la tête ou des oreillettes, du temps simplement pour regarder le monde autour de soi, quand on marche dans la rue par exemple, sentir ce qui se passe. Laisser cet espace en nous pour réfléchir, pour se poser la question, mais où est-ce que je suis là ? Est-ce que cette décision, c'est vraiment la mienne ou est-ce que je suis pris dans trop de loyauté par rapport aux autres ? J'ai besoin d'espace et de silence pour mûrir les graines, pour m'émerveiller et pour laisser Dieu venir nous visiter. Parce que c'est là où Dieu vient nous visiter, en nous. Alors oui, Chloé, je te souhaite de toujours rester enracinée en Dieu, en Jésus-Christ, et qu'il puisse t'aider à te nourrir par la Bible, par les autres, par toute la vie autour de toi. Et comme Joseph, tu pourras traverser la vie en gardant les yeux sur le Seigneur. Et c'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Amen.